Bonsoir, bienvenue à tous. Il est 18h. Vous écoutez le studio Kalangou. L'information se poursuit. Le journal en français présenté par Diallo Mariama Kenda. Voici nos titres. Ouverture ce matin du premier forum de la CEDEAO sur l'éducation et la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Détail dans ce journal. L'Union des scolaires nigériens USN suspend son mot d'ordre de grève. Décision prise à la suite de la rencontre hier entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le comité directeur de l'USN. Vous entendrez les deux parties dans ce journal. Le syndicat national des médecins spécialistes répond au ministre de la Santé qui samedi les avait exhortés à rejoindre leur poste. Dans la partie magazine, retour sur le forum sur l'éducation de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Ouverture ce matin au palais du congrès de Niamey du premier forum de la CEDEAO sur l'éducation et la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Plusieurs personnalités telles que Sa Majesté Mahamadou Aboubakar, le sultan de Sokoto au Nigeria et son éminence cardinal John Onyeka, archevêque catholique, participent à ce forum. Pour le président Issoufou Mahamadou, l'intégrisme religieux est l'une des causes de l'insécurité dans la zone sahélo-sahélienne.
Aujourd'hui, le terrorisme radical, dont la ligne directrice a une connotation religieuse, a pris une envergure dans l'espace CEDEAO et une partie de la communauté des États de l'Afrique centrale, obligeant nos États à utiliser les moyens militaires pour y faire face. C'est le cas en particulier de la zone sahélo-saharienne et du bassin du lac Tchad. Au regard de ce contexte difficile, le thème « Éducation à la culture de la paix » à travers le dialogue intra- et interreligieux est plus que jamais d'actualité. Il est donc normal que nous puissions, au niveau de la CEDEAO, réfléchir à l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Le dialogue intra-religieux est une source d'enrichissement et une occasion pour approfondir et maîtriser sa propre religion. Il exige respect et reconnaissance de l'autre et absence de dogmatisme. Le dialogue interreligieux doit, pour être fructueux, faire cohabiter les religions afin qu'elles puissent se féconder les unes les autres et que chacun puisse approfondir sa propre religion et contribuer à la tolérance et à la paix.
Vous venez d'entendre le président Issoufou Mahamadou. Je l'annonçais, un protocole d'accord a été signé entre le ministère des Enseignements supérieurs et l'Union des scolaires du Niger. C'était hier lors d'une rencontre entre ces deux parties. Selon Mohamed Ben Omar, en charge de ce dossier, le gouvernement s'engage à satisfaire les revendications de l'USN dans de meilleurs délais. Écoutons-le.
C'est tout à fait dans l'ordre naturel des choses pour des organisations syndicales telles que l'USN de faire des revendications, d'observer des arrêts de travail et de cours et d'aller, le tout, se définir autour d'une table de négociation en ayant des acquis. Je pense que ces acquis sont incontestables, ils sont là, nous avons discuté et dans la mesure de nos possibilités aujourd'hui, nous avons accédé à ces requêtes. Les paiements vont bientôt commencer et toutes les clauses telles que paraphées vont être respectées, Inch'Allah. Et je dois rassurer en tout cas les uns et les autres que, tel que stipulé dans le document, dans les heures qui suivent, les camarades qui ont été arrêtés vont être libérés. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la sérénité revienne. Et je salue en tout cas le courage, le sens élevé du devoir de la délégation de l'USN, qui, compte tenu de cet esprit de détente constaté sur le front social et la bonne volonté du gouvernement de vouloir vraiment sauver l'année, ils ont accédé à notre requête et aujourd'hui nous sommes arrivés à une conclusion.
Propos recueillis par nos confrères de la télévision nationale. L'Union des scolaires nigériens, l'USN, suspend son mot d'ordre de grève de 48 heures. Cette décision a été prise à la suite de la rencontre hier entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le comité directeur de l'USN. Le gouvernement s'engage à satisfaire 4 des 5 points de revendication posés par la structure estudiantine. Ousseini Sambo, secrétaire général du comité directeur de l'USN, au micro de Asmana China.
Le premier point, c'était relatif à la libération de nos camarades qui sont incarcérés. Hier, tous, même celui qui était à la prison civile de Filingué, a trouvé sa libération et tous les autres 100 camarades qui étaient à Niamey, tous ont été relaxés. Il s'agit des paiements de la bourse. des allocations, de la subvention qui va commencer incessamment dans cette semaine. Cette aide sociale sera payée pour les étudiants des universités et leurs bourses de vacances. À l'étranger, déjà, les autres développements ont été faits pour payer tous les étudiants qui sont à l'étranger qui n'ont pas perçu et la troisième bourse et seront mis de leurs droits. Et c'est tous les frais de scolarité. Nous avons insisté là-dessus pour que l'État puisse payer les frais de scolarité pour que nos camarades cessent de subir les humiliations de leur pays d'accueil, ce qui n'honore pas surtout notre pays. En dehors de cela, il y a la question de la contre-signature de diplôme. Nous avons dit que nous sommes partie prenante de cette signature de diplôme pour crédibiliser nos diplômes. Mais le ministère s'est engagé à créer toutes les conditions qu'il faut pour améliorer les systèmes pour que nos camarades puissent être mis de leurs droits le plus tôt que possible, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau de l'ANAB.
C'était à l'instant Ousseini Sambo, secrétaire général du comité directeur de l'USN, au micro de Asmona China. La coalition en cause Niger-Sinaseb a maintenu son mot d'ordre de semaine noire qui a débuté ce matin malgré le début de dialogue initié hier par la partie gouvernementale. Où en sont les négociations à ce stade? Aliou Hassan Samna, co-coordonnateur de cause Niger, répond au micro de Moussa Hassan.
Nous avons maintenu le mot d'ordre de grève. Et ce maintien s'explique par le fait que les engagements pris par le gouvernement n'ont pas encore trouvé de satisfaction. Le paiement de l'ensemble des enseignants n'est pas d'actualité. Il y a encore des camarades qui attendent 2 à 3 mois. Et aussi, la question du recrutement à la fonction publique, la question de la grille salariale qui était posée depuis, et continue toujours donc à rester sans solution. C'est pour vous dire en résumé que l'essentiel des préoccupations donc de la cause Niger et du CNSM n'a pas pu trouver des solutions. Et le gouvernement de la 7e République a eu à nous appeler hier et nous avons eu à discuter sur ses préoccupations. Nous n'avons pas fini d'échanger et nous allons reprendre les négociations donc ce soir à partir de 15h. Au niveau de la cause Niger et du CNSM, notre souhait est assez de voir le gouvernement de la 7e République s'engager à régler véritablement ses préoccupations puisque vraiment le retour à la sérénité au niveau de l'école passe forcément par la satisfaction donc de ses préoccupations.
Propos recueillis par Moussa Hassan. La réponse du syndicat national des médecins spécialistes au ministre de la Santé, celui-ci face aux députés samedi dernier, avait exhorté les médecins spécialistes à regagner leur poste. Le point de vue du docteur Kongizé Zoubeirou, secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes au micro de Laouratou Ibrahim Kado.
C'était vraiment du théâtre juste pour discréditer les médecins spécialistes aux yeux de la population. Parce qu'on a essayé de faire comprendre que le gouvernement a fait tant d'efforts, a fait toujours des propositions et les spécialistes refusent. Le ministre a dit que nous sommes concentrés à Niamey, ce n'est pas les syndicalistes qui font les affectations. Ce sont eux qui font les affectations. Ils font les affectations avec leurs coups de fil. Ils ont leurs parents, leurs amis, leurs connaissances, leurs alliés politiques qui ne veulent pas quitter telle zone, et ce sont eux qui les maintiennent dans ces zones-là. Et c'est lorsque tu n'as aucune protection, lorsque tu es le fils du peuple, comme on l'appelle, on te prend, on te balance là où on vient et on t'oublie.
Après avoir sillonné les différentes communes de la région d'Agadez pour la préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique, le ministre chargé des relations avec les institutions a présidé ce matin une réunion de synthèse dans la salle de réunion du gouvernorat. Le ministre Issoufou Barké nous fait le point de la situation.
Au plan agricole, la production est nettement en deçà des attentes des agriculteurs. Cette situation est due à la mauvaise répartition des pluies, au retard accusé dans le placement des intrants, mais également aux inondations enregistrées et aux écoulements de courries dans certaines localités. Il ressort que 129 villages sont déclarés déficitaires sur les 267 villages agricoles, soit 48% pour une population estimée à 100 418 personnes. Au plan pastoral, le déficit fourrager est estimé à 269 913 tonnes de matière sèche, soit 35% des besoins. En effet, pour un besoin fourager estimé à 765 580 tonnes, il n'a été enregistré que 495 667 tonnes. Cette situation déjà déficitaire sera aggravée par la pratique de ramassage de paille de plus en plus courante.
Propos recueillis par notre correspondant Agadez, Moussa Mamman. 3 morts, 3 blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la route qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 novembre 2016 sur l'axe Tibarkatin-Arlit. Un camion gros porteur transportant 22 orpailleurs de retour du site orifère de Tibarkatin s'est renversé à 12 km à l'entrée de la ville d'Arlit. Gungu Maman Dantani a joint ce matin le maire de la commune urbaine d'Arlit, Maouli Abdourahman, qui explique.
Le véhicule vient de Tibarakatene, en train de rentrer avec 22 personnes à bord à 12 km. C'est un gros portail, il s'est renversé. Sur le champ, il y a eu 3 morts, 3 blessés graves et 2 blessés légers. Donc on a procédé à l'entraînement ce matin, les 3 morts, les 3 blessés à l'hôpital et les autres, tout le monde est en train de... Les autres sont rentrés.
Qu'est-ce qui était le mobile de cet accident?
C'est un problème de direction.
Les passagers, c'est des Nigériens ou bien il y a des étrangers?
C'est des Nigériens, c'est des Nigériens.
Le maire de la commune urbaine d'Arlit, Mauli Abdulrahman. Sport, lutte. La lutte traditionnelle est le sport le plus aimé au Niger. La 38e édition du SAB national aura lieu à Tawa du 25 décembre 2016 au 3 janvier 2017. Lors du combat, il est recommandé à chaque lutteur de porter la tenue traditionnelle. Or, on constate que ces dernières années, certains lutteurs ne portent plus cette tenue dans les arènes. Écoutons Malam Barka, directeur technique national de lutte traditionnelle, qui explique ce qui est prévu par le code régissant la lutte au Niger.
Tout lutteur doit se présenter en walki et banchi. Les gris-gris et les kambou, qui sont des cordons magiques, ils ont une manière de danser, ils ont une manière de faire du clair. Et maintenant, chaque lutteur traditionnel doit avoir les louanges de sa famille. Tous les lutteurs des autres régions connaissent bien le walki et le banchi. Mais le boudouma, ils ne connaissent pas le walki. C'est pour cela qu'on a fait exception aux lutteurs boudouma de la région de Difa qui se retrouvent dans le lac Tchad. Et ils ont leur tenue. C'est la culotte en pagne. Si c'est en pagne, c'est conçu à la main. Quand tu dis à un boudouma de mettre le walki, c'est un problème, il ne peut même pas bouger. Le rituel là qui entoure la lutte, c'est ça que nous pouvons vendre à l'extérieur. La valeur de notre lutte, c'est la tenue du lutteur. Il n'y a pas spécifiquement un comité ou une réunion pour réviser le code, parce que les règles sont dans le code. Et le code a besoin d'être un peu révisé.
Propos recueillis par Soumana Amadou, la partie magazine de cette édition, ouverture ce matin au Palais du Congrès de Niamey du premier forum de la CDAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux, fonder les bases solides de la tolérance, c'est l'objectif assigné à cette rencontre.
Au nom de la foi chrétienne,
sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah.
C'est par des prières solennelles des différentes concessions religieuses qu'a débuté le premier forum de la CDAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Pour fonder les bases solides de la tolérance, une forte implication de toutes les religions s'avère nécessaire, a expliqué le ministre de la Renaissance culturelle, Asmana Malamissa, dès ses premiers mots.
Les religions assurent, vous le savez, les fonctions d'organisation, de régulation sociale et de communion au sein des communautés. À ce titre, elles constituent un socle qui sous-tend la construction de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale.
Selon Marcel de Souza, secrétaire exécutif de la CDAO, les conséquences de cette montée du radicalisme et de l'intolérance religieuse qui cause l'instabilité des États a de nombreuses conséquences.
La communauté est victime de repli sur elle-même et vit un réel choc psychologique et émotionnel. Le taux de fréquentation scolaire chute dans les zones affectées. Le nombre de réfugiés et de déplacés internes ne cesse d'augmenter et on en décompte plusieurs milliers au Niger, au Mali et au Nigeria. La guerre contre le terrorisme amenuise les maigres ressources de nos États qui auraient pu être consacrées à la lutte contre la pauvreté, à la création d'emplois pour les jeunes qui en manquent cruellement.
Ce fut l'occasion pour la représentante de l'UNESCO de revenir sur le programme de la culture de la paix de l'UNESCO.
Permettez-moi de rappeler également le programme de la culture de la paix de l'UNESCO qui se place dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie à moyen terme 2014-2021 qui a identifié la construction de la paix par l'édification de sociétés inclusives, pacifiques et résilientes comme l'un des deux grands domaines d'action pour l'Afrique. La stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique, qui est l'une des deux priorités globales avec l'égalité des genres, développe en détail ce domaine prioritaire à travers des programmes phares dont le premier s'intitule « Promouvoir une culture de la paix et de la non-violence ».
Pour terminer, le secrétaire exécutif du NEPAD et représentant de l'Union africaine, Ibrahim Hassan Meyaki, a affirmé que les 50 années à venir seront consacrées à la libération économique et sociale de l'Afrique qui passe forcément par la construction de la paix. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le forum du studio Kalangou présenté par Mokhtar Amadou.